Le 21 mai, nous rentrions à Tlemcen. L'expédition avait été heureuse. Nous ramenions bœufs, moutons, chameaux, des prisonniers et des otages. Après 37 jours de campagne, ou plutôt de chasse incessante, nos chevaux étaient maigres et flanqués, mais ils avaient encore l'œil vif et plein de feu. Pas un n'était écorché sous la selle. Nos hommes bronzés par le soleil, les cheveux longs, les buffleteries sales, les vestes râpées, montraient cet air d'insouciance au danger et à la misère qui caractérise le vrai soldat. Pour fournir une belle charge, quel général n'eût préféré nos chasseurs aux plus pimpants escadrons habillés de neuf? Depuis le matin, je pensais à tous les petits bonheurs qui m'attendaient. Comme j'allais dormir dans mon lit de fer après avoir couché 37 nuits sur un rectangle de toile cirée, je dînerais sur une chaise, j'aurais du pain tendre et du sel à discrétion. Puis je me demandais si Mademoiselle Concha aurait une fleur de grenadier ou du jasmin dans ses cheveux et si elle aurait tenu les serments prêtés à mon départ. Mais, fidèle ou inconstante, je sentais qu'elle pouvait compter sur le grand fond de tendresse qu'on rapporte du désert. Il n'y avait personne dans notre escadron qui n'eût ses projets pour la soirée. Le colonel nous reçut fort paternellement et même il nous dit qu'il était content de nous. Puis, il prit à part notre commandant et pendant 5 minutes, lui tint à voix basse des discours médiocrement agréables autant que nous en pouvions juger sur l'expression de leur physionomie. Nous observions le mouvement des moustaches du colonel qui s'élevait à la hauteur de ses sourcils tandis que celle du commandant descendait piteusement défrisée jusque sur sa poitrine. Un jeune chasseur, que je fis semblant de ne pas entendre, prétendit que le nez du commandant s'allongeait à vue d'œil. Mais bientôt les nôtres s'allongèrent aussi lorsque le commandant revint nous dire « Qu'on fasse manger les chevaux et qu'on soit prêt à partir au coucher du soleil. Les officiers dînent chez le colonel à 5 heures, tenue de campagne, on monte à cheval après le café. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas contents, messieurs ?» Nous n'en convînmes pas et nous le saluâmes en silence, l'envoyant à tous les diables, à part nous ainsi que le colonel. Nous n'avions que peu de temps pour faire nos petits préparatifs. Je m'empressai de me changer, et après avoir fait ma toilette, j'eus la pudeur de ne pas m'asseoir dans ma bergère, de peur de m'y endormir. À 5 heures, j'entrai chez le colonel. Il demeurait dans une grande maison mauresque, dont je trouvais le patio rempli de monde, français et indigène, qui se pressait autour d'une bande de pèlerins ou de saltimbanques arrivant du sud. Un vieillard, laid comme un singe, à moitié nu sous un burnous troué, la peau couleur du chocolat à l'eau, tatoué sur toutes les coutures, les cheveux crépus et si touffus qu'on aurait cru de loin qu'il avait un colbac sur la tête, la barbe blanche et hérissée, dirigeait la représentation. C'était, disait-on, un grand saint et un grand sorcier. Devant lui, un orchestre composé de 2 flûtes et de 3 tambours faisait un tapage infernal, digne de la pièce qui allait se jouer. Il disait qu'il avait reçu d'un marabout fort renommé tout pouvoir sur les démons et les bêtes féroces. Et après un petit compliment à l'adresse du colonel et du respectable public, il procédait à une sorte de prière ou d'incantation appuyée par sa musique, tandis que les acteurs sous ses ordres sautaient, dansaient, tournaient sur un pied et se frappaient la poitrine à grands coups de poing. Cependant, les tambours et les flûtes allaient toujours précipitant la mesure. Lorsque la fatigue et le vertige eurent fait perdre à ces gens le peu de cervelle qu'ils avaient, le sorcier en chef tira de quelques paniers placés autour de lui des scorpions et des serpents, et après avoir montré qu'ils étaient pleins de vie, il les jetait à ses farceurs qui tombaient dessus comme des chiens sur un os et les mettaient en pièces à belles dents, s'il vous plaît. Nous regardions d'une galerie haute le singulier spectacle que nous donnait le colonel, pour nous préparer sans doute à bien dîner. Pour moi, détournant les yeux de ces coquins qui me dégoûtaient, je m'amusais à regarder une jolie petite fille de 13 ou 14 ans qui se faufilait dans la foule pour se rapprocher du spectacle. Elle avait les plus beaux yeux du monde et ses cheveux tombés sur ses épaules en tresses menues terminées par de petites pièces d'argent qu'elle faisait teinter en remuant la tête avec grâce. Elle était habillée avec plus de recherche que la plupart des filles du pays, mouchoir de soie et d'or sur la tête, veste de velours brodé, pantalon court en satin bleu laissant voir ses jambes nues entourées d'anneaux d'argent, point de voile sur la figure. Était-ce une juive, une idolâtre, ou bien appartenait-elle à ces hordes errantes dont l'origine est inconnue et que ne troublent que des préjugés religieux ?